France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard et Loïc Antoine. Réalisée par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Sofiane Actib. Deuxième volet de notre série sur la laïcité, les différentes formes de laïcité dans le monde à l'occasion du 120e anniversaire de la loi française sur la séparation de l'Église et de l'État. Après la Turquie, hier, où la laïcité, la laïclique, a d'abord été pensée comme une façon de contrôler la religion et où l'islam est aujourd'hui au service de l'État. On parle ce matin de l'Irlande. L'Église catholique est priée de céder du terrain, affaiblie par différents scandales.
In Ireland, especially in them days. The church ruled the roast.
À l'époque, en Irlande, l'Église régnait en maître, et l'Église avait toujours raison. On ne critiquait jamais les prêtres, ni les religieuses. On obéissait sans réfléchir.
J'ai grandi dans un pays incontestablement régi par le droit canonique catholique romain. Et quand je repense à mon passé, c'est comme si j'avais vécu sur deux planètes complètement différentes. L'Irlande, c'est aujourd'hui une curiosité historique pour les jeunes générations.
Nous avons eu beaucoup de scandales dans notre église. Il y a eu beaucoup d'abus sur les enfants. Dans les années 90, tout cela a été révélé. Cela a provoqué, je pense, un déclin important. Mais cela va plus loin. Il y a de toute façon un développement du sécularisme.
Si l'on devait faire la différence entre laïcité et sécularisme, on pourrait dire que la laïcité s'impose, se décrète, s'organise, quand le séculariste est comme un mouvement de la nature, une marée descendante, un retrait progressif de l'Église et du religieux dans la vie des gens. En République d'Irlande, on parle davantage de sécularisme car l'Église catholique est toujours présente dans la Constitution, dont le préambule commence avec ces mots « Au nom de la Sainte Trinité, de qui vient toute autorité et à qui doivent être rapportées toutes les actions des hommes et des États, nous, peuple d'air, reconnaissant humblement toutes nos obligations envers notre Seigneur, etc., etc., pour ne pas dire ainsi soit-il. Pourtant, la Constitution, qui date de 1937, a été amendée en 72 suite à un référendum, et depuis lors, elle ne parle plus de reconnaître la position spéciale de l'Église catholique et affirme que toutes les religions sont traitées et respectées de la même manière. Alors, comment expliquer la place qu'occupe encore l'Église catholique dans la vie quotidienne, dans les écoles, les hôpitaux, que la doctrine sociale de l'Église reste une référence aussi dans les discours des responsables politiques, les différents scandales d'abus sexuels ou de maltraitance des femmes et des enfants dans les couvents dits de la Madeleine ont-ils progressivement détourné les citoyens de leur clocher? Nous en parlons avec nos invités que je salue. Je vous souhaite la bienvenue à toutes les deux. Agnès Maillot, bonjour.
Bonjour.
On a de la chance que vous soyez à Paris. En ce moment, vous êtes très très souvent à Dublin où vous êtes professeur au département des langues appliquées et des études interculturelles de la Dublin City University. Bonjour Nathalie Sebane, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes irlandiste, on dit irlandiste, et vous tenez d'ailleurs, vous aussi, vous tenez à cette appellation que je ne connaissais pas.
Fait.
C'est très joli. Maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle. Enfin, c'est très juste, plutôt. Alors, pour comprendre le poids de l'Église catholique aujourd'hui encore en Irlande, il faut partir de la Constitution de 1937. Nathalie Sebane, pourquoi le texte stipule une position spéciale de l'Église catholique à cette époque-là? Quelle position spéciale en l'occurrence et pourquoi la graver dans le marbre constitutionnel?
Mais il faut savoir que donc 1937, on est 15 ans après l'indépendance. Il y avait eu une première constitution en 1922 qui était beaucoup plus universaliste, beaucoup plus laïque que celle de 1937. Et donc on revient progressivement... pendant les années 20 et les années 30, à une crispation, on va dire, identitaire. Et cette identité, après les siècles de colonisation britannique, s'affirme par la voie du catholicisme romain. Et la Constitution de 37 va être rédigée en étroite collaboration pour un grand nombre de ses articles, avec l'archevêque McQuaid, qui va notamment quasiment dicter certains des articles à Eamon de Valera, notamment tous les articles sur la famille.
Physiquement, il est dans la pièce,
il a la pièce. Plume. Enfin, il y a une véritable consultation, un retour de textes, d'épreuves entre McQuaid et d'autres catholiques. Et finalement, dans cette constitution, effectivement, on va se retrouver avec toute une série d'articles. Vous avez cité le préambule, mais il y a aussi l'article 6, il y a tous les articles sur la famille, dans lesquels, effectivement, on a une forte influence de la doctrine sociale de l'Église, de l'importance de la famille, du rôle de la femme au sein de la famille et de l'importance qu'elle reste au foyer pour éduquer les enfants et s'occuper de son mari. Donc c'est un héritage historique, c'est un héritage identitaire.
Donc cette constitution reste à peu près telle qu'elle jusqu'en 1972, date à laquelle est organisé un référendum pour amender la constitution. Référendum qui concerne justement cet article 44, le statut spécial de l'Église catholique. Qui demande un référendum, Nathalie Seban, à l'époque, et quel est le contexte politique qui le permet?
Alors, on est en 72, donc on est à l'époque où l'Irlande et la Grande-Bretagne vont rejoindre l'Union européenne. Donc, il y a une volonté, effectivement, de s'aligner sur le reste de l'Europe. Il y a quelque chose d'anachronique, hein, certainement. Il y a toujours des choses anachroniques dans la Constitution irlandaise. Mais en 72, il y a vraiment quelque chose d'anachronique entre la volonté de s'intégrer à la communauté européenne et cette espèce de décalage conservateur catholique. Donc, de toute façon, pour amender la Constitution en Irlande, il faut passer par un référendum. Donc, il y a référendum qui est approuvé et qui donc efface cette mention de la position spéciale de l'Église catholique. Donc effectivement, là, on a un vrai premier pas vers une volonté de séculariser la Constitution, si ce n'est la société, du moins la Constitution.
Est-ce qu'il s'agit de supprimer la phrase « L'État reconnaît le statut spécial de la Sainte Église catholique apostolique romaine en tant que gardienne de la foi professée par la grande majorité des citoyens » ou il faut l'amender, la modifier?
Alors là, cet alinéa est effacé.
Effacé. Donc reste une référence au respect que l'on doit à Dieu Tout-Puissant et toujours la référence à la Sainte Trinité dès le préambule. Agnès Maillot, sur le contexte politique de l'époque, le Premier ministre alors s'appelle Jack Lynch. Est-ce qu'il est intéressant de s'arrêter sur ce qui s'est joué pendant la campagne du référendum pour ou contre supprimer donc cet article 44?
Alors, moi, je reviendrai peut-être un tout petit peu en arrière sur la Constitution, parce que pour renforcer ce que dit Nathalie, l'archevêque de Dublin, c'est une terreur. Cet homme est une terreur.
Et moi, il est. Vous voulez dire, c'est quelqu'un qui terrifie qui?
Tout le monde. Tout le monde. C'est les politiques qui ne peuvent que s'aligner sur lui, parce que on ne peut pas déroger au pouvoir de l'Église. C'est absolument impossible. Et le premier ministre de l'époque, Eamon de Valera, est lui-même un catholique pratiquant et extrêmement dévoué à la cause. Et il sait très bien que cet alignement avec l'Église catholique est fondamental pour continuer à pouvoir faire fonctionner les institutions qui sont, pour une grande partie en tout cas, qui ont été financées par l'Église. Les écoles appartiennent à l'Église, les hôpitaux. Donc tout ça, il y a une espèce de consensus entre l'Église et l'État. Et donc on arrive à cette situation où, si l'Église en a décidé ainsi, c'est pas autrement. Il faut aussi souligner que on a deux États en Irlande du Nord, sur l'île irlandaise, on a l'Irlande qui n'est pas encore une république en 1937, et on a l'Irlande du Nord, qui est sous tutelle du Royaume-Uni, mais qui est l'Irlande du Nord. Et l'Irlande du Nord est protestante, à majorité protestante. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Irlande a été divisée, pour lesquelles le processus d'indépendance a été aussi complexe, c'est qu'il y a une majorité en Irlande du Nord qui est d'affiliation protestante et qui ne veut pas s'aligner avec l'Église catholique, qui lui semble une Église beaucoup trop puissante, etc. Donc on a un vrai enjeu politique autour de ça. En 1934, le dirigeant politique nord-irlandais déclare qu'on a un État protestants pour des protestants. Donc, on a cette espèce de confrontation entre deux États et leur identité.
Et un enjeu politique d'ailleurs qui en Irlande du Nord subsiste aujourd'hui, on en parlera dans le focus tout à l'heure avec Karine Fischer. Vous vouliez ajouter quelque chose Nathalie Seban sur le contexte politique du référendum cette fois de 72, qu'est-ce qui permet à la classe politique irlandaise, au Premier ministre Jack Lynch, puisque vous parliez jusqu'à présent d'un consensus et de ce responsable religieux qui terrorise tout le monde, et surtout de ce consensus lié au fait que l'Église est omniprésente dans la société, les écoles, les hôpitaux, qu'est-ce qui fait qu'en 72 on peut ne serait-ce que se permettre de se poser la question de savoir si on peut modifier la Constitution pour retirer cet article 44. Mais
comme je vous le disais, je pense qu'il y a une pression, une influence à la fois européenne. Il y a aussi, c'est l'époque où on a des jugements comme Roe versus Wade aux États-Unis. Donc il y a quand même un contexte dans lequel on a l'impression que l'Irlande essaye de prendre un peu de souffle de sécularisation et de s'ouvrir un petit peu vers le monde. Et il va y avoir aussi dans les années 70 une percée d'un mouvement féministe. Tout ça, va très vite s'arrêter dans les années 80 avec un retour en force du conservatisme catholique.
Est-ce que, puisque vous parliez de cette division politique qui n'est pas que religieuse, qui est aussi politique communautaire, disons, en Irlande, est-ce que cette modification de la Constitution est présentée à l'époque par le Premier ministre Jack Lynch qui vraiment fait campagne, parce qu'il a très peur que les Irlandais s'abstiennent. Donc il fait vraiment campagne pour dire vous pouvez voter, il faut aller voter, puis vous pouvez voter oui. Est-ce que la modification qui est présenté comme un geste de réconciliation entre les différentes communautés religieuses de la République, ça fait partie du discours politique. Est-ce que les catholiques et les protestants le vivent aussi, ces communautés vivent les choses comme telles, c'est-à-dire comme un geste de réconciliation?
En Irlande du Nord, vous voulez dire?
En Irlande, en République d'Irlande.
Alors, en République d'Irlande, certainement, mais on a quand même une petite minorité protestante qui s'est sentie quand même submergée par la majorité, l'écrasante majorité catholique, mais qui a réussi quand même à préserver ses écoles, etc. Mais c'est aussi, rien ne se passe d'un côté de l'île sans qu'on puisse, qu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté. Et en Irlande du Nord, on est en plein conflit, dans un conflit qui est sanglant, qui est ultra-violent, qui est un conflit identitaire, ethno-nationaliste, où la religion ne joue pas un rôle moral, mais un rôle identitaire très très important. Donc effectivement, c'est un pas que fait la République vers une réconciliation. Autant vous dire que pour les protestants nord-irlandais, c'est un pas absolument insignifiant. Ça les intéresse très peu.
Nathalie Seban ? Non, je croyais que vous vouliez réagir. Pardon. J'ai interprété votre regard comme une volonté d'ajouter quelque chose. Donc, ces différents amendements modifiés par référendum de la Constitution les années suivantes, eux, n'ont pas toujours été dans le sens d'une mise à distance de l'Église. En 72, il y a cette réforme très importante. En revanche, quand en 1983, on introduit un nouvel amendement dans la Constitution, cet amendement inscrit l'interdiction de l'avortement dans la loi fondamentale. Quel rôle, cette fois, joue l'Église catholique? À ce moment-là, Nathalie Seban, est-ce qu'elle fait campagne pour le oui, pour que enfin je ne sais pas exactement en quel terme était posée la question, mais pour que l'interdiction de l'avortement soit inscrite dans la Constitution.
Alors effectivement, lorsque se présente ce moment du 8e amendement, qui restera un moment crucial dans l'histoire sociale, politique de l'Irlande, l'Église fait campagne de manière très virulente. Hein. Les sermons dans les églises tous les dimanches insistent sur le fait que l'avortement est un crime. Jusque-là, l'avortement était interdit par une loi britannique qui était demeurée après l'indépendance, mais elle n'était pas anticonstitutionnelle. Et là, justement, dans les années 80, il y a cette crainte un peu d'une Irlande qui deviendrait de nouveau immorale. Il y a la crainte de voir que, effectivement, on pourrait avoir l'avortement, que le pays se libéralise trop. Donc l'Église va opérer ce repli en invitant les gens à revenir aux valeurs fondamentales qui ont permis que l'Irlande indépendante retrouve son identité. Et là, effectivement, le oui va dépasser tout ce qu'on espérait, avec un taux de participation élevé. Et ça va quand même rester jusqu'en 2018. Il faut attendre 2018 pour que le 8e amendement soit abrogé.
En 2018, un nouveau référendum. 66% des électeurs votent pour cette suppression de l'interdiction de l'IVG dans la Constitution. Et cette universitaire et figure du militantisme irlandaise, Ailbi Smith, pour le droit des femmes et des LGBT, s'en réjouissait et racontait cette histoire. Il y a quelque temps.
On the 23rd of May 2018,
Le 23 mai 2018, après une lutte acharnée qui a duré 35 ans et 6 référendums, les électeurs ont voté massivement lors d'un référendum à forte participation pour abroger le 8e amendement et légaliser l'avortement en Irlande. Ça a été une victoire extraordinaire pour les droits des femmes et ça a scellé la transformation du pays. On est passé d'un bastion du conservatisme religieux à l'une des démocraties les plus tolérantes d'Europe.
Elle ne s'appelle pas Elby Smith, mais on dit Alva Smith en irlandais. Est-ce qu'à cette époque-là, donc 2018, c'est beaucoup plus récent, Agnès Maillot, et donc on est en train de se rapprocher progressivement d'aujourd'hui et pour essayer de comprendre comment l'Église continue ou pas à peser, y compris jusque dans les lois irlandaises, est-ce qu'en 2018, les débats autour de ce vote ont à nouveau été âpres, comme en 83? Est-ce que l'Église a tout fait pour empêcher, là encore, que le oui ne l'emporte, ou on avait changé de contexte?
Alors l'Église, forcément, fait tout pour empêcher que le oui l'emporte, parce que c'est son rôle. L'Église est fondamentalement opposée à l'avortement. Mais après, le contexte, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on a eu d'autres référendums entre-temps. On a eu un référendum sur le divorce. Alors, faut rappeler à vos auditeurs que le divorce en Irlande est légal depuis 95 ou 96, 95. C'est très récent. Donc, on a un retard considérable à rattraper. Et ce qui est très étonnant, et moi, je l'ai vécu, parce que ça fait des années que je suis là-bas, c'est la façon dont ça se fait. C'est-à-dire qu'il y a une évolution ultra rapide sur le terrain, qui est due en partie à une très forte immigration, non seulement de personnes venant de l'UE et d'autres pays plus lointains, mais d'Irlandais qui reviennent en Irlande après avoir vécu loin, et qui reviennent en Irlande et qui apportent un autre discours. Et donc on voit cette évolution qui se fait de façon très très rapide, le divorce, puis en 2015, le mariage pour tous. L'Irlande est le seul pays à légaliser le mariage pour tous par référendum. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Et c'est un pari extrêmement osé qu'ils font à ce moment-là, parce que c'est un sujet qui est très complexe, qui reste dans la société très tabou. Et là, on assiste à une espèce de coming out sociétal. Tout d'un coup, avec tout ce qui s'est passé dans l'Église et que peut-être Nathalie racontera mieux que moi, mais avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'a fait l'Église, tout ce qu'ont fait les représentants de l'Église pendant des décennies, là, il y a un vrai mouvement de ras-le-bol, de non. On veut plus que vous nous dictiez la conduite et que vous n'êtes plus des gardiens de notre morale, c'est fini. Et donc ce mouvement-là, bah, évidemment, une fois que 2015, le mariage pour tous est voté, bah, on attend qu'une chose, c'est l'amendement de cette constitution et de cet article 8.
Donc
l'abrogation, pur et simple.
L'Église catholique, à ce moment-là, en effet, a été, j'allais dire, l'objet, mais non, le sujet de différents scandales sociétaux qu'on va en effet développer, Nathalie Séban. Ça l'incite à faire plutôt profil bas lors de ces derniers référendums. On n'est plus comme en 83, quand il y a cette campagne pour introduire le nouvel amendement qui inscrit l'interdiction de l'avortement dans la Constitution, où les prêtres faisaient des sermons tous les dimanches à la messe. Là, on est dans un autre registre. L'Église est plus discrète.
Elle est discrète et effectivement profil bas, parce qu'il faut encaisser. Alors, si je puis me permettre, il faut vraiment encaisser toutes ces révélations qui commencent fin des années 90. Donc c'est en parallèle avec ce boom économique de l'Irlande, hein, où effectivement, les Irlandais vont découvrir qu'il y a autre chose, que on arrive, mais vraiment dans l'Europe, on est des Européens, on s'ouvre au monde. Les médias aussi commencent à prendre énormément de place, et c'est précisément par l'intermédiaire de ces médias que vont être racontées, commencent à être racontées ces histoires d'abus. Alors ça commence par effectivement un terrain qui devait être vendu, une des plus grandes Magdalen Laundry de Dublin. On retrouve sur ce terrain des corps qui ne correspondent pas, des tombes qui ne correspondent pas au nom. Et petit à petit...
Alors pardon, on n'a pas encore expliqué ce que c'était que les Magdalen Laundry, c'est pour ça qu'il faut en dire un mot,
pardon,
parce que c'est en effet ça qui a tant fait parler et surtout tant révélé le rôle qu'avait eu l'Église dans une certaine une vraie violence exercée sur des enfants et leurs mères certaines années jusqu'en à la fin des années 90.
Alors on va être précis, dans les Magdalen Laundry, il n'y avait pas d'enfants. C'était exclusivement des femmes qu'on considérait comme des femmes perdues. Alors qui avait pu avoir des enfants hors mariage Et quand elles étaient avec leurs enfants, ou quand elles étaient enceintes, elles allaient dans ce qu'on appelait des mother and baby homes. Ce dont a parlé Catherine Corless, dont on parle beaucoup avec le scandale de Tume, puisqu'en ce moment, il y a des fouilles pour retrouver ces 700 corps de bébés. Et les Magdalen Laundries étaient donc des institutions qui étaient gérées par un certain nombre de congrégations religieuses, dans lesquelles, effectivement, on cachait. C'était des endroits dans lesquels on cachait ces femmes, dont la réputation risquait d'entacher à la fois leur famille, la paroisse et, à plus grande échelle, la moralité de la société irlandaise. Et donc, il y en avait un grand nombre, enfin un certain nombre, sur tout le territoire national.
C'est cette histoire, par exemple, qui a inspiré le film documentaire de Steve Humphries pour la Channel 4 en 98, Sex in a Cold Climate.
Absolument.
Qui a révélé également à l'Irlande et au Royaume-Uni ce qui s'était passé dans ces Magdalen Laundries. Je vous propose d'en écouter un extrait avant de poursuivre.
I didn't see anything godly.
Je n'ai rien vu de divin dans cette église.
I didn't see anything Christly.
Je n'ai rien vu de chrétien.
All I saw was a bunch of bullies.
Tout ce que j'ai vu, c'était une bande de brutes. Je n'y ai vu qu'une bande de brutes et de démons déguisés en religieuses.
Les religieuses n'étaient pas censées être cruelles. Elles étaient des sœurs de la miséricorde. Mais elles n'ont eu aucune pitié pour nous. J'ai donc toujours dit que s'il y avait un Dieu juste, nous n'aurions pas autant souffert. Et c'est ce que j'ai dit quand je suis partie. Je ne vais pas à l'église, je ne prie pas, je n'impose pas la religion à mes enfants.
Extrait de Sex in a Cold Climate, 1998, l'histoire de trois jeunes filles, Margaret, violée par son cousin lors d'un mariage, Bernadette, pensionnaire d'un orphelinat mais qui plaît trop aux jeunes gens du quartier au goût de certains, et enfin Rose qui donne naissance à un petit garçon alors qu'elle n'est pas mariée. Ces trois jeunes filles sont emmenées au couvent des sœurs de Marie-Madeleine ou sévit sœur Bridget. Et donc ces témoignages-là commencent à ce moment-là à sortir, à être publiés. Est-ce que les responsables politiques irlandais sont prompts alors à ouvrir des enquêtes ?
Absolument pas. Absolument pas. Il faudra attendre très très longtemps. Il faudra attendre qu'un groupe en fait de militantes, dont certaines avaient elles-mêmes été dans des Magdalen Laundries ou étaient des enfants adoptés, parce qu'il y a tout le scandale des enfants adoptés aussi dans les Mother and Baby Homes, dont on pourra parler un petit peu plus tard. Et il a fallu attendre que ces femmes-là fassent pression à la fois sur le gouvernement irlandais, sur les organismes de droits humains, y compris sur les institutions internationales, pour que finalement le gouvernement irlandais se décide à diligenter une enquête et produire un rapport. Donc on a un peu ça, on a pour les industrial schools, on a pour les Magdalen Laundries, on a pour les mother and baby homes. Donc le scandale, l'enquête, le rapport, qui ne délivre pas du tout ce qu'il devrait délivrer, puisque là, dans le cas des Magdalen Laundries, c'était très limité. Le mandat de cette commission d'enquête, c'était simplement établir la responsabilité de l'État dans l'envoi de jeunes femmes dans les Magdalen Laundries. Donc on a évacué toute une partie de l'histoire, hein, de ces institutions, et notamment les abus, les mauvais traitements, les disparitions de ces femmes qui perdaient toute leur identité dans ces institutions.
Alors, j'ai fait une petite confusion. D'ailleurs, on a entendu l'extrait d'un documentaire de Sex in a Cold Climate, donc de Steve Humphries, alors que l'histoire des trois sœurs que j'ai racontée,
c'est Peter Mullen. Mais Peter Mullen a construit son script à partir de ce documentaire.
Vous faites bien de le rappeler. En tout cas, on sait aussi que un ancien foyer religieux pour mère et bébé de Tume, dont vous avez commencé à l'évoquer, aujourd'hui des enquêtes, des fouilles ont été ouvertes pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Juste pour ça, pour bien comprendre, c'était pas une Magdalen Laundry.
Non, c'était Mother and Baby Home. C'est une maison maternelle.
C'est une maison maternelle où on accueillait des jeunes femmes avec des femmes et leurs enfants.
Enceintes qui allaient mettre au monde leurs enfants qui ensuite allaient leur être retirés pour être souvent vendus à l'adoption.
Tume, qui est dans le comté de Galway, c'est là donc qu'a été découverte une fosse commune où 800 enfants ont été, comment dire, déposés, jetés. L'historienne Catherine Corless, dont la mère est née dans ce foyer, a fait un travail énorme pour convaincre les autorités de procéder à des fouilles et désormais à des exhumations. Elles ont commencé en juillet et cette dame espère retrouver et identifier le corps de son jeune frère qu'elle n'a jamais revu.
J'ai ici un rapport d'inspection datant de 1947. John y est décrit comme un enfant de 13 mois, misérable, émacié. Il est mort à 16 mois, officiellement de la rougeole. Mais moi, je ne crois pas qu'il soit mort de la rougeole. Il est mort de négligence et de malnutrition.
Il nous en a fallu du temps. Cela signifie énormément pour moi, car ce fut un véritable combat. Beaucoup de gens ne voulaient pas que ça arrive, et le plus révoltant, c'est que ce sont précisément ceux qui auraient dû reconnaître depuis longtemps ce qu'il s'est passé ici. L'Église, l'État, nos autorités locales.
Reportage extrait d'un reportage de Clémence Pénard pour France Culture, diffusé en juillet dernier. Alors, on entend bien que ce sont des affaires différentes, mais cette affaire des Magdalen Laundries est vraiment celle qui a fait le plus couler d'encre en Irlande, fait le plus... voilà, il y a eu cette commission d'enquête dont vous dites qu'elle a été mal ficelée, que les conclusions qui ont été rendues laissent par ailleurs à désirer. Cet ordre religieux qui tenait les Magdalen Laundries, d'ailleurs je ne sais pas s'il a... quel est son nom exactement, Agnès Maillot. C'est lui qui...
Il y en avait plusieurs.
Ah, il y en avait plusieurs. Ah, oui. Parce que, alors, pourquoi est-ce qu'on dit...
Je voudrais juste revenir sur la concomitance entre les premières révélations sur les Magdalen Laundries, qui sont fin des années 90, et un documentaire qui sort en même temps, qui s'appelle States of Fear, et qui revient sur ce qu'on appelait les écoles industrielles. Et les écoles industrielles, c'était des écoles qui avaient été établies bien avant l'indépendance, c'était des institutions britanniques, et qui étaient censées recueillir les orphelins, les enfants qui étaient... alors, c'était aussi des écoles un peu pénitentiaires, etc. Et là, on revient sur l'histoire de ces écoles, donc ce sont des hommes, surtout, qui témoignent de l'enfance qu'ils ont subie, littéralement, parce que c'est une enfance aux mains du personnel religieux. Ce sont des écoles, encore une fois, sous le contrôle de l'Église, et parfois aussi des interventions de personnes qui sont des fonctionnaires, des travailleurs sociaux, etc. Et là, on découvre, en plus de l'abomination de toutes ces Magdalen Laundries, Mother and Baby Homes, que personne n'a été épargné. Et le pire, c'est qu'on le savait. C'est pas on découvre, nous, simples citoyens, mais le premier rapport sur ces écoles, il date de 1938. Il y a un premier rapport, alors, qui est évidemment pas du tout la même chose que ce qu'on voit maintenant, mais malgré tout, qui fait déjà des recommandations sur comment on devrait intervenir. Alors, on parle pas d'abus sexuels à l'époque, on doit parler de sévices physiques, etc. Les rapports s'enchaînent. On a des révélations, en 1900, début des années 90, l'évêque de Galway, qui est un personnage très puissant, etc. Et tout d'un coup, on découvre que cet homme qui fait régner la terreur dans son diocèse, est en fait, il a un enfant aux États-Unis d'une relation évidemment cachée, etc. Et en plus, il fait payer le soutien financier qu'il envoie à cette femme, vient des dons de l'Église, et puis on apprendra des années plus tard qu'il a abusé de dizaines d'enfants. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de ces années-là, c'est vraiment des années de plomb en Irlande, où tous les jours on ouvre le journal et on apprend à quel point cette Église est corrompue et c'est à maltraiter sa population, ses enfants, ses jeunes, tout le monde y est passé.
Alors, la question ressurgit régulièrement en Irlande, elle n'est jamais totalement enfouie d'ailleurs, mais elle a ressurgi récemment quand on a appris qu'un ordre religieux devait diriger un service de maternité à l'hôpital de Dublin, ce qui pour nous, vu d'ici, paraît totalement, oui, anachronique ou étrange. Pourquoi est-ce qu'on confie un hôpital ou un service hospitalier à un ordre religieux? Dans quelle mesure ça se pratique encore aujourd'hui, Nathalie Séban?
Mais c'est surtout que tous les hôpitaux appartenaient aux ordres religieux, et ça date de l'époque de Paul Cullen, hein, au XIXe siècle, quand il avait justement donné ce rôle important à jouer aux ordres religieux en Irlande, et notamment... Alors que ça allait à l'encontre de directives qui avaient été prévues d'un système éducatif national, il avait confié aussi le système éducatif aux ordres religieux. Donc ça appartenait aux ordres religieux. L'idée, c'est que maintenant, petit à petit, ça redevienne un service public. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les hôpitaux publics, j'avais des chiffres, je crois que c'est 7 des plus grands hôpitaux publics en Irlande, sont encore entre les mains de congrégations religieuses. Alors... Et ce que j'ai constaté, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, en fait, Ce qui se passe, c'est que c'est le terrain appartient aux congrégations religieuses. Donc on est dans une espèce de partenariat public-privé entre l'État et l'Église. Et alors cet État qui aujourd'hui semble ne plus devoir avoir cette déférence vis-à-vis de l'Église catholique comme ça avait pu être le cas, reste quand même dans cette espèce de nexus un peu particulier, mais pour des raisons financières, pour des raisons immobilières. Et c'était le cas justement de cette maternité de Dublin qu'on devait transférer en fait sur un terrain qui appartenait au sort de la charité, il me semble. Et avec quand même un financement à hauteur de, je ne sais plus, 350 millions d'euros de l'État. Donc, financement de l'État, mais quand même une mainmise et une influence. Et on va se demander, effectivement, mais quel est le problème si ce terrain appartient à l'Église ? Mais ça veut dire que quand même, ces gens-là vont avoir leur mot à dire. Quand il va s'agir de contraception, d'avortement, de FIV...
On l'a vu, ça, dans les hôpitaux qui sont déjà sur des terrains de l'Église.
Bien sûr, mais même depuis que le 8e amendement est abrogé et que la loi a été votée qui légalise la pratique de l'avortement, il y a un certain nombre d'hôpitaux et de cliniques dans lesquels on refuse de pratiquer ces avortements.
Agnès Maillot, les hôpitaux, alors même si on ne voit pas des soignants on ne voit pas des bonnes sœurs ou des prêtres dans les couloirs des hôpitaux, c'est pas la question. La question est plus insidieuse, en effet. La question se pose dans les écoles, cette fois, parce que les écoles restent majoritairement confessionnelles. En Irlande, 90% des écoles primaires, 50% des écoles secondaires sont aujourd'hui sous le patronage des congrégations religieuses, mais financées par l'État. Est-ce que ça a une incidence sur les programmes directement ?
Forcément. Parce que si c'est une école religieuse, il va y avoir un enseignement. Alors, c'est pas forcément du catéchisme, mais on a beaucoup bougé depuis même les dernières 30 années. Mais malgré tout, l'Église reste quand même propriétaire. C'est toujours cette question, en fait. C'est que l'Église, en 1922, on a un pays archi-pauvre. L'Irlande qui arrache son indépendance à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne s'en va, il lui reste pas grand-chose. Donc il lui reste des congrégations religieuses qui sont très riches et qui prennent en main les hôpitaux, les écoles, etc. Donc maintenant, on a sécularisé une bonne partie de tout ça, mais il n'empêche que, comme pour les hôpitaux, les écoles, les bâtiments restent aux mains de l'Église. Alors, il y a de plus en plus d'écoles non confessionnelles qui se sont organisées grâce à des parents militants qui ont monté en fait des associations, et la plus grosse s'appelle Educate Together, donc qui est une école non pas non confessionnelle, on parle pas du tout d'une laïcité à la française, mais multi-confessionnelle. Et puis il reste des écoles catholiques, et il en reste beaucoup, où tout de même, malgré tout, on a introduit dans les cours de religion, on ne parle plus que de religion catholique, c'est plus du tout c'est pas du catéchisme, on parle aussi de religion qui ne soit pas issue du christianisme, parce que il y a aussi une immigration qui fait que on a des musulmans, mais malgré tout il reste sous la coupe de l'Église, parce que c'est l'Église qui paye les terrains. Donc ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'à côté de chez moi à Dublin, il y a une école multiconfessionnelle qui s'est ouverte dans un bâtiment qui appartient à l'Église. Donc il y a des aménagements. Ces écoles, il y a une école à côté de chez moi, c'est un quartier qui était avant un quartier relativement ouvrier. Donc il y a une école qui s'appelle Loreto. Donc Loreto, c'est un ordre religieux, c'est un couvent, c'est une école de filles secondaires. Mais comme le quartier a vu pas mal de ce qu'on appelle les nouveaux Irlandais, c'est-à-dire des immigrants, il y a une communauté musulmane, et donc les filles portent l'uniforme, les jeunes filles musulmanes portent un uniforme, l'uniforme de l'école, avec un voile de la couleur de leur uniforme. Donc il y a des aménagements. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a même une flexibilité qu'on ne trouverait pas forcément en France dans une école laïque.
Donc il y a d'autres voies qui se dessinent, d'autres voies de la laïcité qui se dessinent, y compris dans la société. Et je voudrais qu'on prenne le temps pour conclure sur ce sujet-là. Les mouvements qu'ils soient aujourd'hui en faveur d'une place moindre de l'Église dans la société, où sont-ils? Et les mouvements qui, au contraire, je parle vraiment de la société civile ou dans les partis, qui sont ceux, en quoi est-ce que cette question est encore un marqueur politique dans le débat politique et éventuellement un sujet de polarisation dans la société, Nathalie Seban?
Mais justement, pour revenir sur la question des écoles, c'est intéressant parce que j'ai vu qu'il y a à peu près un mois, c'est pour expliquer que les autorités politiques commencent quand même à se saisir prudemment, ils sont très très frileux, les deux partis, parce qu'il y a vraiment deux partis qui ont régulièrement le pouvoir en Irlande, sont quand même des partis avec un ancrage conservateur, masculin, etc. etc.
Même donc, si les présidentes sont régulièrement des femmes, mais enfin, pas les premiers ministres.
Non.
Présidente, elle est quand même très honorifique en Irlande.
Exactement.
Exactement.
Honorifique, pardon.
Honorifique,
tout à fait. Tout à fait.
Non, elle n'a pas de rôle exécutif. C'est pas le président qui détient le pouvoir exécutif.
Non, le pouvoir, c'est entre Fine Gael et Fianna Fáil. Ils sont deux partis qui ont montré quand même au cours de ces dernières décennies leur frilosité, hein. C'est-à-dire qu'on attend que ça vienne de la population et ensuite on s'inscrit dans un mouvement pour des raisons électorales, etc. Mais j'ai vu qu'il y a un mois, le ministère de l'Éducation nationale a envoyé un questionnaire aux familles qui ont des enfants dans les écoles primaires ou qui vont entrer dans les écoles primaires en leur demandant de s'exprimer sur le choix des écoles dans lesquelles ils souhaiteraient que leurs enfants soient inscrits, alors mixte, multiconfessionnel, en quelle langue, etc. Bon, c'est effectivement, ça indique une certaine prise de conscience qu'il faut avancer aussi vers plus de sécularisation. Et étonnamment, je lisais les résultats, à ce jour, il n'y a qu'un tiers des familles qui ont répondu. Donc là aussi, encore une fois, c'est intéressant d'observer comment la société fonctionne. C'est-à-dire que quand, au niveau politique, ça commence à bouger, mais finalement, on est installé dans une espèce de consensus. On se dit, mais ça fonctionne bien comme ça, et puis on bouge pas. Et c'est un peu la même chose avec les scandales de l'Église. Je pense qu'effectivement, tous les jours, on voit encore des choses. J'ai encore lu aujourd'hui ou hier qu'il y avait encore un prêtre qui avait été accusé d'abus. Il y a eu le Scoping Report aussi sur les abus dans les écoles, qui est quelque chose d'énorme. Enfin, je pense que ça... Et on n'a pas terminé. Mais... Je pense que les Irlandais ont envie peut-être de passer à autre chose aussi, de regarder ailleurs. On ne va pas en permanence revenir sur ces histoires. Certes, c'est difficile à digérer, mais il faut en faire son deuil, c'est comme ça. Et on va passer à autre chose. Je pense que Agnès qui vit là-bas
mais carrément.
Voilà. Alors oui, Agnès Maillot, il y a un parti qui se prononce pour une laïcisation totale de l'Irlande. C'est le Sinn Féin à gauche, même si il n'a pas le poids. Non, vous pas tant.
J'irai
que
ça. Pas jusque-là parce que alors. Évidemment, c'était un résultat absolument magnifique. Le résultat qu'on a eu à deux reprises et à trois ans d'intervalle sur le mariage pour tous et l'avortement, c'est magnifique de se dire que deux tiers de la population ont voté pour changer la constitution, etc. C'est magnifique. Mais il n'empêche qu'il reste un tiers de la population qui a voté non. Donc ces gens-là comptent. Ils comptent électoralement et ils sont très souvent dans des milieux plus ruraux, etc., ou dans des milieux très conservateurs. Je pense que les partis de gauche sont peut-être à tendance plus laïque, mais en même temps, en Irlande, en ce moment, on a un tel sujet autour de l'extrême droite qui est en train d'envahir l'espace public, le discours public. Alors, on se focalise sur le discours anti-migrant de l'extrême droite, et on fait bien parce qu'il est très toxique, mais malgré tout, le socle commun de tous ces mouvements, c'est le retour vers les valeurs chrétiennes, etc. Et des partis comme le Sinn Féin, qui sont certes très à gauche ou se disent très à gauche, ils font aussi attention à leur base électorale. Donc c'est pas ils vont pas se prononcer pour une laïcisation. Ils sont nationalistes. Ils ont leurs électeurs en Irlande du Nord. Ça reste des gens qui sont d'identité catholique. Donc ça ne peut pas être radical. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué.
Même si bien sûr l'Église catholique en Irlande n'est pas monolithique. Alors peut-être qu'il est une exception parmi d'autres. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le père Joe MacDonald, curé de la paroisse St Matthews de Ballyfermot, c'est ça, à Dublin, était dans l'émission The Late Show cette année-là, et il essaye de dire combien il pense que l'Église doit se réformer.
Pourquoi l'Église catholique mérite-t-elle de mourir? C'est le titre de mon livre et c'est ce qu'il doit se passer si nous continuons à prêcher la peur au lieu de l'amour. Laissez-moi vous donner un exemple. Une dame que je connais très bien m'a parlé de son fils de 15 ans. Avec son mari, ils sont terrifiés et inquiets. Elle me dit, nous avons peur parce que c'est un jeune homme homosexuel et il a entendu à l'école, et c'est aussi ce que l'Église enseigne, des mots comme mal et désordre, etc. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Si tout ce que nous pouvons offrir à ce jeune homme homosexuel et à ses parents, c'est de la peur, de la censure et des interdits, alors nous ferions mieux de nous taire.
Le père Joe McDonald, est-ce qu'il représente une partie quand même importante de l'Église, peut-être pas aussi outrancier dans les mots, mais sur le fond de ce qu'il dit, est-ce que l'Église continue aujourd'hui à susciter des vocations, Nathalie Seban, en Irlande ?
Absolument pas. Absolument ah bon pas. Non, absolument pas. Il y a une véritable crise des vocations depuis 20-30 ans, hein, déjà. Le nombre de... parmi les prêtres qui continuent à... officiers, hein, on va dire, une grande partie sont très très âgés. Le séminaire de Maynooth est vide. Il y a très très peu, il y a quasiment plus.
Ils sont vus.
Ils sont une vingtaine.
Ils ont été 400.
C'est ça, voilà. Du côté des religieuses, parce que il faut pas oublier que les religieuses ont joué un rôle quand même très très important aussi. C'est pareil, hein, il reste très très peu de femmes. Mais parce qu'effectivement, à l'époque, c'était pas forcément un choix non plus d'entrer au séminaire ou au couvent. C'était presque une obligation économique, financière. Ce qui explique aussi peut-être que, effectivement, quand on mettait dans ces institutions ces deux groupes de femmes qui n'avaient pas choisi ni l'une ni l'autre d'être là, ça pouvait devenir cette espèce de bombe à retardement qui allait exploser à un moment donné.
En Irlande, l'Église priait de céder du terrain. C'est le deuxième volet de notre série sur les différentes voies de la laïcité en Irlande. Il s'agit davantage d'un processus de sécularisation progressif. On parlera de l'Irlande du Nord, cette fois juste après ce groupe irlandais Fontaine D.C. You should have heard me in the lounger telling people what they was, spitting out all sorts of sugar, just dying for a cause, cause, cause. A smile, a slither to my corner, on a face so true. My word is always in the ready, and I'll attribute that to you. I don't belong to anyone, I don't belong to anyone, I don't belong to anyone, I don't wanna belong to anyone. Le
groupe irlandais Fontaine D.C., I Don't Belong. Cette chanson date de 2020. En Irlande, l'Église est priée de céder du terrain. C'est ce deuxième épisode de notre série sur les différentes voies de la laïcité. En Irlande, on ne parle pas d'un régime laïque en tant que tel. L'Église est très présente encore dans les textes, mais aussi dans les écoles, ce qui est également le cas en Irlande du Nord.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Petite, j'étais à l'école catholique, et à l'école, si on était catholique, on ne jouait pas avec les protestants. Nous n'étions pas autorisés à sortir avec des protestants quand nous étions adolescents. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi, et nous ne voulons pas que nos enfants grandissent de la même façon que nous. Nous ne voulons plus de ce genre de problème, et la plupart des gens sont d'accord avec ça.
Extrait du documentaire sur les écoles du vivre ensemble diffusé sur Arte. Cette dame exprime ce que d'autres parents d'élèves ont porté devant la justice. La Cour suprême du Royaume-Uni leur a donné raison. Il y a quelques semaines, elle estime que l'enseignement religieux chrétien dans les écoles d'Irlande du Nord n'est pas dispensé de manière objective, critique et pluraliste, et qu'elle porte ainsi atteinte aux droits humains. Bonjour Karine Fischer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure des universités en études irlandaises et britanniques à l'Université d'Orléans, spécialiste des politiques éducatives en Irlande et au Royaume-Uni. D'abord, que reprochaient exactement ces parents d'élèves à l'école ? Est-ce que leurs plaintes portaient sur l'école nord-irlandaise en général ou à l'établissement où sont inscrits leurs enfants en particulier ?
Alors un peu des deux, parce que je pense que la démarche elle a été faite au sujet d'une école dite d'État, école protestante, mais qu'elle avait le parent qui l'a engagée avait aussi le sentiment et de devoir s'interroger et interroger le système éducatif néerlandais dans son ensemble.
Les décisions successives de la justice dans cette affaire sont d'ailleurs intéressantes à développer. Il y a d'abord la Haute Cour de Belfast qui a donné raison aux parents en jugeant illégal l'enseignement religieux dispensé dans les écoles d'Irlande du Nord. Puis la Cour d'appel a invalidé cette décision. La Cour suprême vient de désavouer la Cour d'appel à chaque fois quels textes sont invoqués? Est-ce que l'Irlande du Nord, qui n'a pas de constitution propre, puisque c'est une région britannique, qu'est-ce que le juge, le président de la Cour suprême, comment a-t-il justifié sa décision?
Alors la base qui est utilisée, c'est celle qui est liée à la Déclaration des droits humains. Le Royaume-Uni, jusqu'à présent, a mis dans sa loi, fin des années 90, l'essentiel de cette déclaration. Et pour le moment, il y a des débats au Royaume-Uni. Hein, les conservateurs souhaiteraient s'en démarquer, mais pour le moment, ça reste encore présent dans la législation britannique également.
Quant aux parents d'élèves qui sont à l'origine de cette plainte, ils ont bien dit qu'ils ne professaient eux aucune croyance religieuse en particulier, qu'ils refusent simplement que le christianisme soit présenté comme une valeur absolue. Quand le juge Ben Stephens de la Cour suprême souligne dans sa décision que l'affaire ne porte pas sur la laïcité dans le système éducatif et que personne ne suggère que l'enseignement religieux ne devrait pas être dispensé dans les écoles d'Irlande du Nord, mais juste qu'il ne devrait pas s'apparenter à de l'endoctrinement. Qu'est-ce que ça révèle de l'enseignement religieux en Irlande du Nord? Est-ce que le ministre de l'Éducation s'est déjà saisi de cette décision de justice? Est-ce que ça a généré un vrai débat de société et un débat politique?
Alors, il y a eu plusieurs questions dans votre question. En termes de débat de société, ce qu'a dit la Cour suprême, ça a surtout engagé une série de contre-feux de la part à la fois des églises et du ministre de l'Éducation nord-irlandais, qui essaie d'en limiter les conséquences. On peut aussi s'étonner un petit peu du flou, malgré tout, de ce que dit la Cour suprême, dans le sens où l'instruction religieuse chrétienne telle qu'elle est enseignée aujourd'hui dans les écoles nord-irlandaises est une forme d'indoctrination. Il y a dans les écoles catholiques en particulier, c'est du catéchisme. Hein, on prépare aussi au sacrement. Et d'un autre côté, la Cour suprême fait un rappel de la nécessité du respect des droits fondamentaux individuels et en particulier de la liberté de conscience et de religion, donc, alors que l'un n'est pas compatible avec l'autre. Le gouvernement néerlandais en ce moment est en train d'essayer de se raccrocher aux branches et à la loi néerlandaise de 47 qui, elle, instaurait la nécessité de cette instruction religieuse dans les écoles.
Instruction religieuse qui ferait l'objet d'un programme, un socle d'éducation chrétienne. Donc les catholiques et les protestants sont censés s'y retrouver dans toutes les écoles public, tous les enfants, à partir du moment où ils sont chrétiens, sont censés se retrouver dans cet enseignement religieux. C'est ça aussi ce que dit le ministère de l'Éducation?
Alors c'est relativement récent. Hein, le socle commun d'éducation religieuse, il date des années 90. C'était à l'époque une grande nouveauté. Tout le monde s'enorgueillissait de cette grande nouveauté. Effectivement, on est censé être dans un socle commun d'instruction chrétienne. La question aussi, c'est est-ce que l'école d'État ou en tout cas financée par l'État doit reconnaître des enfants a priori comme chrétiens à partir du moment où leurs parents le sont. C'est aussi toute la question aussi de la liberté de conscience et de religion des enfants eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on est dans un système en Irlande du Nord où vraiment on est resté dans un apprentissage de type catéchisme. Hein, le premier objectif d'apprentissage, c'est la révélation de Dieu. Donc il y a quand même malgré tout des petites différences, hein, je pense, qui continuent entre les écoles catholiques et les écoles protestantes. Les écoles catholiques, elles sont restées sur les sacrements, elles y passent beaucoup de temps, notamment à l'école primaire, ce qui n'est pas le cas des écoles protestantes.
Alors, il y a eu, on ne parle pas de sondage cette fois, mais vraiment du dernier recensement décennal en Irlande du Nord en 2021. Plus de 17% de la population se déclarait non religieuse. Ce même recensement indiquait d'ailleurs que le nombre de catholiques avait dépassé le nombre de protestants. C'est la première fois en Irlande du Nord, 45,7% de la population qui se dit désormais catholique. Pour les parents qui, eux, se considèrent non chrétiens ou simplement non religieux, comment font-ils ? Est-ce qu'ils peuvent faire dispenser leurs enfants des cours de religion ? Est-ce que les enseignants peuvent refuser d'être affectés dans une école qui dispense des cours religieux ?
Alors, du point de vue des parents et des enfants, il y a effectivement un mouvement de longue date, hein, notamment de la part des parents, pour faire en sorte que ces choses évoluent. De fait, en théorie, les enfants ont effectivement le droit d'être dispensés. La réalité, c'est que c'est très très compliqué pour des parents de faire dispenser leurs enfants et pour leurs enfants de se retrouver isolés dans une classe. C'est en plus compliqué d'un point de vue pratique, dans les écoles primaires en particulier. Il y a une forme de discrimination qui a été reconnue, de stigmatisation à minima, qui a été reconnue d'ailleurs par la Cour suprême. Du côté des enseignants, c'est encore plus compliqué. Les syndicats enseignants s'élèvent depuis un bon moment aussi contre la façon dont ils sont traités. Mais de fait, la discrimination religieuse pour le recrutement et même la promotion des enseignants, elle est toujours permise par une exemption aux lois d'égalité devant l'emploi. Il y a une loi nord-irlandaise qui a été adoptée en mars 2022 qui est censée mettre fin à cette exemption. Mais à ma connaissance, elle n'est pas encore en passe d'être appliquée.
Merci beaucoup Karine Fischer d'avoir été avec nous. Vous avez écrit « École et religion, hiérarchie identitaire et égalité citoyenne en République d'Irlande » pour faire le lien d'ailleurs avec notre première partie. C'était aux presses universitaires de Caen. Merci d'avoir été avec nous. Vous travaillez aussi, vous intéressez aussi en Irlande du Nord à ces écoles intégrées qui accueillent les enfants de toutes les confessions, qui rappellent les écoles multiconfessionnelles en République d'Irlande dont nous parlaient nos invités. Peut-être un tout petit mot pour conclure avec vous, Agnès Maillot, notamment, qui vivait à Dublin aujourd'hui. Le débat, nous disiez-vous, aujourd'hui politique est extrêmement polarisé, tendu, quelque chose qui n'existait pas en République d'Irlande ces dernières années. La question de l'immigration aussi revient sur la table. Comment les autres
religions... Elle n'a jamais été là. C'est ça qui
est vraiment nouveau. Oui. Et comment ça fait bouger les lignes des débats sur la place de l'Église catholique.
L'Irlande ayant été elle-même un pays d'émigration, il y a une ironie à voir cette espèce de levée de bouclier à laquelle on assiste actuellement. Alors c'est encore très très minoritaire, on a une extrême droite qui reste nébuleuse d'organisation, qui reste extrêmement minoritaire, qui fort heureusement ne s'organise pas au niveau national, mais ce qu'on voit quand on regarde un petit peu le programme, si on peut parler de programme, de ces différentes formations, le socle commun, ça reste l'identité irlandaise catholique, l'identité chrétienne, et en cela ils rejoignent tous leurs confrères européens, c'est-à-dire qu'on revient à des valeurs, ils sont anti-avortement, ils sont anti-LGBT, ils sont anti tout ce que vous voulez, au nom d'une identité catholique, nationaliste, traditionnelle, qui serait mise en danger par les migrants, le grand remplacement, enfin voilà, on y est. Mais malgré tout, c'est un retour, ils espèrent, ils fantasment un retour à cette identité irlandaise, qui franchement n'intéresse plus grand monde.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler dans ce sujet, dans toute sa complexité. Agnès Maillot, professeure au département des langues appliquées et des études interculturelles de la Dublin City University. Et merci beaucoup Nathalie Seban, maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle, d'avoir été avec nous dans ce studio. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Revue de presse présentée par vous, Estelle Caméraire. On en parlait la semaine dernière dans Culture Monde. En Argentine, le président d'extrême droite, Javier Milei, regagne en popularité à mi-mandat.
Déjà 2 ans qu'on a vu celui qui se déclarait candidat anti-système faire campagne. Avec une tronçonneuse, symbole des coupes drastiques que prévoyait l'ultra-libertarien soutenu par Donald Trump. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux, Javier Milei s'était mis en scène devant un tableau.
Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
où il arrache le nom des ministères les moins importants selon lui, dont le ministère de l'Environnement, de la Culture ou celui des Droits des Femmes. Dès son investiture le 10 décembre 2023, le dirigeant argentin d'extrême droite a annoncé qu'il n'y avait plus d'argent, rappelle El País. Le but était donc de réduire les budgets publics pour réduire le déficit et l'inflation. Et il a tenu ses promesses, mais à quel prix ? Le quotidien hispanophone dresse le bilan de mi-mandat du président à la tronçonneuse qui n'a pas hésité à, je cite, « sabrer dans les retraites, la fonction publique, les universités, les hôpitaux publics et la recherche scientifique ». Milei a réduit de moitié le nombre de ministères et licencié plus de 50 000 fonctionnaires, poursuit El País, qui souligne que d'autres suppressions de ministères jugées trop progressistes sont à venir. La population de Javier Milei a vite chuté au départ, selon le quotidien. Des soupçons de corruption ont failli l'achever avant que Donald Trump arrive pour le sauver. Le Trésor américain a commencé à vendre des dollars sur le marché argentin pour renforcer le peso, de quoi apaiser la crise monétaire et tenir une promesse, faire baisser l'inflation. C'est une soumission aveugle aux États-Unis, explique un éditorial du quotidien Libré. Mais fort de la victoire inattendue de son parti, La Libertà Avanza, traduisait La Liberté Avance, aux législatives en octobre, et d'une popularité grandissante, comme le montre un graphique d'El País, Javier Milei rentre dans la deuxième partie de son mandat avec plus de pouvoir que prévu.
Ce qui pourrait l'avantager d'ailleurs pour le vote de son projet colossal de mine de cuivre et d'or.
Un projet d'exploitation pharaonique est débattu au Parlement de la province de Mendoza dans la matinée. Une opportunité économique énorme pour le pays, assure Javier Milei, cité par El Economista, mais surtout pour le gouvernement. Le journal rappelle que 600 millions de dollars sont en jeu, du jamais vu depuis 20 ans dans la région qui est très en retard sur l'exploitation minière. Mais selon le média argentin pro-environnement Noticias Ambientales, les ressources en eau de Mendoza sont déjà très faibles. La région traverse une véritable crise hydrique depuis une dizaine d'années. Les méthodes d'extraction risquent donc d'altérer les cours d'eau et disperser des substances chimiques. Une grande caravane de militants écologistes s'est mobilisée contre ce projet de mégamine, explique Le Perfil. Sur les vidéos reprises par le journal argentin et la radio Convos, on les voit sur la route avec des drapeaux et des pancartes. Et on les entend chanter « L'eau de Mendoza n'est pas négociable ». Après deux jours de marche sur 100 km, les militants devraient arriver au Parlement au moment où les sénateurs commencent à débattre de l'évaluation d'impact environnemental du projet, explique Le Perfil. Rien n'est fait, assure La Nation. Le quotidien argentin conservateur rappelle qu'un sénateur avait dû revenir sur une loi après des manifestations en 2019, compte tenu des mêmes risques de contamination de l'eau qu'aujourd'hui. Mais d'autres déclaration du président Javier Milei inquiète, notamment une possible modification de la loi sur les glaciers, rappelle La Nation. Le président veut relancer l'activité dans des zones actuellement interdites, comme à Mendoza, sous couvert de développement économique et de progrès, explique le quotidien argentin.
Le Mexique, enfin pour conclure votre revue de presse, Estelle, le Mexique qui couvrirait des espions russes.
Lorsqu'un général américain a annoncé que le Mexique était un refuge d'espions russes en 2022, le président mexicain a nié, mais il était bien au courant, assure le New York Times. La CIA aurait envoyé une liste de noms aux autorités mexicaines qui disent ne jamais l'avoir reçue. Le quotidien new-yorkais explique que les espions ont trouvé refuge à Cancun pour se fondre parmi les millions de touristes américains. Le Mexique est un terrain de jeu pour les espions russes depuis la guerre froide et même avant, le Times se rappelle que Staline avait fait assassiner Léon Trotsky alors qu'il s'était réfugié à Mexico et s'était lié d'amitié avec la peintre Frida Kahlo. Mais d'après l'enquête du New York Times, le Kremlin a développé ses opérations depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. L'ambassade des États-Unis à Mexico en est même venue à nommer son premier observateur officiel de la Russie en août dernier, rappelle le quotidien américain, qui souligne aussi les affinités pro-russes de certains membres du gouvernement mexicain. Ni le parti Morena, le parti au pouvoir, ni la Maison-Blanche n'ont commenté les informations du quotidien, qui conclut son enquête par une citation d'un ancien de la CIA. Le Mexique est la porte d'entrée de l'Amérique latine et les Russes le savent.
Merci Estelle Caméraire.